Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Radio Champierre, une émission faite par les jeunes, pour les jeunes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de...
Elliot,
Roxane,
Aïlis,
Marius.
Et ensemble, on va vous parler d'une visite qu'on a pu faire cet été, une visite toute particulière puisqu'on a été invité par l'association Échangeur 22 à découvrir une exposition temporaire au...
Pont du Gard.
Exactement, au Pont du Gard. Et ça, c'était quand même une belle sortie. Alors, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'avant de parler de la visite en elle-même, d'expliquer un petit peu comment on y allait, puis ensuite, qu'est-ce qu'on a vu avant d'aller voir cette exposition. Enfin, bref, nous raconter un petit peu comment cette journée a commencé, et ensuite, on verra ce qu'on a vu sur place. Roxane ?
On est allé en minibus.
Et on avait une accompagnatrice toute particulière ce jour-là. Comment elle s'appelle ?
Hélène.
Et c'est qui ?
Ma mère.
Oui, c'est ta maman qui est venue avec nous pour aller jusqu'au Pont du Gard. Parce que quand on est un petit groupe avec des enfants, c'est toujours mieux d'être au moins deux adultes. Ça, je ne vous l'apprends pas. Hein. Mais en tout cas, merci Hélène d'être venue parce que ça a été vraiment une super chouette journée. Donc pour le coup, on peut la remercier quand même.
Merci.
Et donc, on est parti en minibus, on est arrivé là-bas. Et la première chose qu'on a fait, c'est quoi ?
On est allé dans le musée, ouais.
Et alors, le Pont du Gard, ça sert à quoi ? Enfin, du moins, ça servait à quoi ?
En fait, c'était pour transporter l'eau d'un point à l'autre. Je crois que c'était de Nîmes au Gard.
De Uzès à Nîmes.
De Uzès à Nîmes. Et du coup, ça se transportait. Il y avait une légère pente. Du coup, ça descendait à l'intérieur. L'eau, elle glissait et elle allait jusqu'à Nîmes.
Exactement. Et quand on fait un pont pour transporter de l'eau, ça s'appelle ?
Un aqueduc.
Un aqueduc, exactement. Donc oui, le Pont du Gard servait à acheminer l'eau d'Uzès jusqu'à Nîmes. Effectivement, comme tu l'as dit, en fait, il a été fabriqué avec une pente très très légère pour que l'eau coule dans le bon sens. Vous savez de combien de degrés elle est, cette pente ?
De 1 degré, non ?
Exactement, 1 degré. Ça veut dire qu'ils étaient assez précis à l'époque pour fabriquer un monument aussi grand en respectant 1 degré de pente sur plus de 50 km. Ils étaient forts quand même.
Ouais.
Je veux dire, à l'époque, ils n'avaient pas des grues, ils n'avaient pas des tractopelles, ils avaient finalement...
Leurs bras.
Oui, puis leurs bras et puis un petit peu de...
Tête. Intelligence.
Des outils qu'ils avaient prévus pour le coup.
Aussi, tous ceux qui ont travaillé sur le Pont du Gard, ils ont signé sur des pierres.
Mais une question me turlupine. Pourquoi on avait besoin d'amener tant d'eau de Uzès jusqu'à Nîmes ?
Pour la boire ?
Alors, pour la boire, en partie,
c'est parce qu'il y avait plein de fontaines, donc du coup, pour que les fontaines fonctionnent, faut de l'eau.
Mais surtout, pas les fontaines.
Et les douches, les toilettes et tout.
Les bains publics. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de douche à la maison. On ne pouvait pas rentrer chez soi en se disant « Allez hop, je vais me prendre ma petite douche, après je vais faire mon tour sur mes toilettes, et puis je vais tirer la chasse, et puis après je vais me laver les mains et je continue ma journée. » Tout ça, il n'y avait pas. Alors bien sûr, on avait des toilettes à la maison, ça c'est pas ce que je veux dire. Mais on n'avait pas l'eau courante. L'eau, il fallait aller la chercher à une fontaine, à un puits. Et pour se laver, il fallait aller se laver au bain public. Alors je vous rassure, c'était pas très cher à l'époque, ça coûtait pas cher d'aller au bain. Aujourd'hui, pour aller faire un hammam, un sauna, ou même ne serait-ce qu'aller se baigner, des fois ça coûte un peu cher. Mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment pas cher. Et du coup, tout le monde allait se laver au bain public. Alors, c'était quand même assez particulier parce que dans les bains publics, on a vu quelques images en fait au Pont du Gard et il y a cette espèce de grande rangée de toilettes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où en fait ça montre que les gens, quand ils allaient au bain et qu'ils devaient aller faire leurs besoins, ils y allaient tous les uns à côté des autres. Ce n'est pas des toilettes séparées comme on a aujourd'hui, c'était vraiment, tu allais faire pipi à côté d'un monsieur qui faisait popo et puis voilà, et vous ne connaissiez pas et puis tant pis quoi. C'était comme ça. C'est bizarre comme idée, hein. Ça nous fait bizarre, nous, aujourd'hui. Hein.
Oui.
Ah, mais pour de vrai, est-ce que vous accepteriez de faire pipi à côté d'un de vos copains ou copines de classe qui, lui, fait pipi en même temps ?
Non.
Non.
Ça a changé, quand même. Alors qu'à l'époque, ça se faisait vraiment de manière naturelle. Hein, je veux dire, ils se posaient même pas la question. C'était comme ça que ça fonctionnait. Là où ça me dérange un peu plus, c'est l'ustensile pour se... s'essuyer les fesses. Vous vous rappelez de ça ?
Un bâton avec une éponge.
Un bâton avec une éponge. Alors, il se passait le bâton avec l'éponge et puis il passait au voisin après. Ouais, c'était quand même tout particulier. Mais il n'empêche que la construction en elle-même, la construction du pont du Gard, c'est vraiment un monument incroyable. Parce que vraiment, le talent et l'ingéniosité qu'il a fallu à ces travailleurs pour arriver à faire ce pont, cet aqueduc, de cette manière-là, c'est assez impressionnant quand même. Et aujourd'hui, on a de la chance parce que ce lieu, pour ne pas être oublié, il est rénové. En plus de ça, très fréquemment, il se passe pas mal de choses au pont du Gard. On a des expositions temporaires, on a des spectacles, on a des fêtes. Donc, ça fait vivre le lieu et ça fait vivre notre histoire, finalement, l'histoire de ce monument. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est allé, nous, au Pont du Gard. Alors, bien sûr, avant d'être allé au Pont du Gard, hein, avant d'aller faire la suite de la visite, on a quand même profité d'être au bord de l'eau. Parce que oui, il faisait très chaud, on était en été, on est quand même allé se tremper les pieds parce que, bon, avec la chaleur qu'il faisait, c'était important. Et donc, une fois qu'on s'est ravitaillé, qu'on a pique-niqué au bord de l'eau, on est allé voir cette fameuse exposition. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Roxane ?
C'était des fils, des lumières. Et la personne qui l'a fait, je ne me souviens plus de comment il s'appelle. Mais en tout cas, il a joué avec la lumière.
Alors effectivement, c'est une exposition sur la lumière qu'on est allé voir, une exposition de Monsieur Yasuhiro Shida. Je ne pense pas que ça se prononce comme ça, mais dans l'idée, ça vous donne à peu près l'orthographe de son nom. En tout cas, cette exposition, elle a été toute particulière. Parce que comment ça s'est passé finalement ? Comment c'était quand on est rentré dans cette exposition ? On était plongé dans le noir.
Et nos yeux devaient s'adapter à la lumière qu'il y avait. Et il y avait des fils avec des lumières.
Oui, on voyait la lumière se déplacer tout au long de ces fils, comme des immenses toiles d'araignée finalement. Et les salles étaient vraiment toutes particulières. Je ne sais pas là, si vous vous rappelez, mais par exemple, dans une salle, on s'est assis, et la lumière, elle montait et elle descendait, un peu comme si le temps passait, tu sais, comme si le soleil montait dans le ciel, puis allait se coucher. Et on avait cette lumière qui grimpait sur les fils, et les fils qui se mettaient légèrement à trembler. Et ça donnait cette espèce d'impression de, tu sais, comme si le monde entier tournait tout d'un coup. En tout cas, moi, je me rappelle de cette exposition parce qu'elle m'a vraiment beaucoup plu. Je sais que ça vous avait plu aussi sur le coup. D'ailleurs, j'ai vos réactions à chaud juste après la visite, qu'on écoutera à travers cette émission. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, de ce que tu te souviens ?
Où il y avait la goutte d'eau qui tombait.
Qu'est-ce que ça faisait d'ailleurs quand cette petite goutte d'eau tombait ?
Une espèce de petite flaque et ça s'écartait avec la lumière. Et ce qui était drôle, c'est que c'était des vraies gouttes d'eau qui tombaient.
Exactement. Il a fait tomber des vraies gouttes d'eau et en fait, la lumière qui se reflétait dans cette petite goutte d'eau quand elle touchait le sol, ça faisait vraiment comme une œuvre d'art qui se répandait et qui disparaissait. Une vraie œuvre d'art éphémère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette sortie au Pont du Gard, ça a été la première d'une longue série de sorties qu'on a fait et qu'on va faire, puisque d'ici la fin de l'année, il y en aura encore d'autres. Il y en aura bien sûr une au château de Suze-la-Rousse et une qu'on fera à Nîmes. Alors à Nîmes pour voir plusieurs choses, parce que Nîmes c'est très grand, il y a beaucoup de choses à voir. En tout cas voilà, ça a été un peu une toute première aventure, une première visite de ce pont du Gard tous ensemble. On va essayer au mieux de vous retranscrire un peu tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a ressenti sur place à travers les enregistrements qui ont pu être faits sur place pendant la visite. Grâce à notre super guide.
MC Marie-Cécile.
Exactement. Et donc, vous allez pouvoir entendre Marie-Cécile qui nous fait visiter, qui nous explique des choses sur le travail de Monsieur Ida. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute, une bonne découverte. Et à très bientôt.
Exposition qui a été faite par un artiste japonais. Et il est venu pendant 2 mois faire un montage. Et vous allez voir pourquoi, mais où tu n'as pas tort, c'est que la particularité de cet artiste, au lieu de poser une toile sur un mur, tout son travail, il est avec l'espace, et donc il crée l'espace sur place. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose derrière moi ?
Oui, il y a des fils.
Il y a des fils. Regardez bien les fils à hauteur d'yeux. Alors ça, c'est la première œuvre de Hiro. C'est la moins spectaculaire. Et c'est une œuvre qui demande juste, qui vous demande, parce que tout le long de l'exposition, il va falloir faire descendre l'excitation, et surtout vos yeux, vos yeux, vous allez être complètement dans le noir, vous allez être désorienté. Il va vous falloir un temps pour réadapter vos yeux à l'obscurité.
Ici, Hiro, il part...
D'un arbre.
Il parle de l'arborescence d'un arbre de lumière. C'est-à-dire comment le même rayon, en fonction de la multitude, donc ici 1,
2,
3, etc., etc., comment, en trouvant une multitude de points de contact, il peut se démultiplier en arborescence.
Alors, qu'est-ce que tu ressens, Hélène ?
C'est apaisant. C'est vraiment apaisant.
C'est impressionnant comme la lumière remplit l'espace en quelques secondes. Je trouve ça fou. On a l'impression que la pièce est vide.
J'ai l'impression d'avoir la naissance d'une étoile et d'un système. Et là, quand je suis à l'intérieur, je ne sais pas, c'est tout bizarre. Ça avance, ça recule. Ça pulse, en fait.
Ouais, on a l'impression d'être complètement ailleurs. C'est très rigolo.
Tout ça fait partie des idées de Hiro. Il dit, si on prend son temps, plus on prend son temps ici, plus on reste tranquille et plus on voit de choses. C'est la nature, c'est pareil. Quand vous vous allongez dans l'herbe et que vous regardez les étoiles, au début vous en voyez une et tout d'un coup, tout l'univers s'ouvre vers vous et vous en voyez et vous sentez, vous avez des sensations différentes. Qu'est-ce qui peut lui avoir donné toutes ces idées-là ? Eh bien, figurez-vous que Hiro, il habite à Nagano. Nagano, c'est dans les montagnes au Japon. Et qu'est-ce qu'il fait comme sport ? Alors Hiro, c'est un adulte maintenant, hein, plus qu'un adulte, mais c'était un enfant un peu particulier. Il avait des problèmes de concentration. Il avait des problèmes de communication. Et alors Hiro, il s'est réfugié dans la nature. Il est parti escalader. Et c'est un très grand escaladeur de cascades glacées. Donc il a largement le temps d'observer la nature. Et il essaye simplement d'essayer de reprendre tout ce que ça lui évoque. Et notamment cette réflexion sur l'espace et sur la lumière. Alors, écoutez-moi bien. Vous avez remarqué que quand vous avez une optique, hein, quand les lunettes, elles sont un peu bombées, eh ben, c'est ce qui est en train de se passer. La surface de la goutte d'eau sert d'optique et va faire comme on fait une mise au point, vous savez, pour la vidéo. C'est pareil. Et du coup, ça crée cet effet de création de planète ou quelque chose comme ça.
Si en quelques mots tu devais raconter tout ce que tu as vu, qu'est-ce que tu me dirais ?
C'est étincelant. Mmh. C'était passionnant, mais par contre ça a fait un peu bugger mon cerveau.
Je trouvais ça un peu stressant. Et celui qui m'a plu, c'est celui où on a l'impression que. Enfin, c'est en spirale, que ça bouge.
Moi j'ai trouvé que c'était agréable à regarder. Quand la lumière elle monte et qu'elle redescend, je trouve ça super joli à voir. Moi, celui que j'ai pas mal aimé, c'est le bleu, avec les fils qui faisaient comme les vagues. Je trouvais qu'il était plus satisfaisant que les autres à regarder.
Bah, il y a tout qui est extraordinaire, en fait. Super impressionnant et vraiment super beau. Ça donne plein d'émotions différentes. C'est vraiment sympa.
Et alors, Marie-Cécile, est-ce que tu peux me redonner le nom de l'artiste ? Juste parce que on va pas parler de son exposition sans au moins le citer une fois.
Oui, parce qu'en plus, quand moi je parle de lui, je coupe son nom, je dis Hiro, mais c'est Yasuhiro Shida. Et voilà, il vient depuis 5-6 ans, régulièrement, peut-être 2-3 fois par an à Échangeur 22.
Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il est venu exposer ici au Pont du Gard.
C'est le Pont du Gard qui m'a demandé de leur faire une proposition. Et pour une première... C'est la deuxième exposition qu'on avait fait Jimmy Richer la veille, l'année d'avant. Mais c'était une proposition pas forcément Échangeur 22. On avait accompagné. Et à la suite de ça, le Pont du Gard m'a demandé de leur faire une proposition. Et j'ai proposé Hiro. Parce que voilà, ça parle de soi. C'est à la fois d'une grande qualité en termes de concept contemporain et puis en même temps de grand public. Et l'année prochaine, on a encore une bonne idée qui sera plutôt du côté, pareil, du numérique, quelque chose de plus technologique quand même.
Moi, personnellement, j'ai hâte de découvrir tout ça. Merci d'avoir partagé cette visite avec nous, de nous avoir emmenés dans cet univers-là qui était vraiment novateur pour nous. Hein. Pour les jeunes, ils n'étaient jamais venus dans des lieux comme celui-là. Donc, c'était vraiment cool. Merci beaucoup.
Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Alors effectivement, le format est plus court que d'habitude et on s'en excuse, mais la plupart des enregistrements qu'on a fait pendant l'exposition n'étaient pas facilement utilisables, simplement parce qu'il y avait beaucoup de bruit ambiant, je pense que vous l'avez entendu. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. C'était Radio Champ de Pierre, une émission faite par les jeunes, pour les jeunes, ici même à Pont-Saint-Esprit. On espère que vous avez apprécié notre voyage et on vous dit à la semaine prochaine. Thank you.